troisième cours.
J'ai vu l'année dernière, les questions qui n'étaient pas, et pour permettre de mieux comprendre bien. Alors, s'il y en a qui sont fatigués par les questions, ils peuvent partir, je leur dis ça aimablement, simplement, parce que ce n'est pas la peine de s'ennuyer. Alors, nous avions rappelé la dernière fois ce qu'on va traiter, le livre Grand A et le livre Petit A, c'est les deux grandes introductions. Nous arrivons ensuite au livre Bêta. Dans le livre Bêta, je ne peux pas le résumer, mais étant donné que c'est impossible de résumer le livre Bêta, nous l'avions déjà vu l'année dernière, combien c'est difficile de voir l'essentiel. Ce qui est important de saisir dans le livre Bêta, c'est les grandes apories, c'est-à-dire les grandes difficultés, les grandes questions. Aristote se pose toute une série de questions par rapport à ce que représente la science première. Je crois que ce livre Bêta est très important parce qu'il nous montre l'intelligence dans son effort de recherche qui montre toutes les difficultés. Aristote nous dit qu'avant de résoudre un problème, il est toujours bon de le nouer et de voir toutes les difficultés qui sont possibles. Et que grâce à ce nœud, l'intelligence alors voit mieux où elle doit porter son regard. Tandis qu'au contraire, si on ne voit pas les difficultés, ne voyant pas les difficultés, l'intelligence ne sait pas où elle va. Et c'est toute l'importance qu'Aristote appelle la dialectique. Pour lui, la dialectique est à ce niveau. On pose des diverses positions pour et contre. On pourrait dire que le livre Bêta, c'est le grand livre dialectique d'Aristote par rapport à la science première. C'est-à-dire où on pose le pour et le contre. Et posant le pour et le contre, c'est-à-dire on voit que si on affirme telle chose, on aboutit à telle réalité. Si on affirme telle autre chose, on aboutira à telle autre réalité. Et alors on voit les différentes difficultés. Je vais vous en citer quelques-unes seulement pour que vous voyez. La première difficulté roule sur le problème que nous avons déjà posé dans l'introduction. L'étude des causes appartient-elle à une seule science ou à plusieurs? Puisque les causes sont plusieurs, il y a quatre causes. Est-ce que la recherche d'une cause va commander une science? La recherche d'une autre cause, une autre science? Ou est-ce qu'une même science peut regarder les quatre causes? Et on sent très bien que c'est un problème important, puisque ça va tout de suite nous faire comprendre la structure interne de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique va-t-elle se développer dans un seul sens? La recherche de la cause formelle. La recherche de la cause matérielle. Ou est-ce qu'elle va se développer de fait dans de multiples sens, à part toujours les diverses causalités? Deuxième, vous voyez, la première, c'est la structure même de la connaissance scientifique. Et de la connaissance scientifique, surtout de la connaissance scientifique de la science première. Au fond, on pourrait dire que ça regarde avant tout le point de vue philosophique. La seconde aporie, notre science doit-elle considérer seulement les premiers principes de la substance ou bien doit-elle embrasser aussi les principes qui sont à la base de toute démonstration? Autrement dit, la même science va-t-elle regarder uniquement les premiers principes de la substance, c'est-à-dire les causes propres de ce qui est, ou au contraire, va-t-elle regarder aussi les premiers principes au niveau de la sensibilité? Et nous dirions dans un langage que est-ce que de fait la science première doit être critique ou est-ce qu'elle ne doit pas être critique? Doit-elle impliquer la critique au-dedans d'elle-même ou doit-elle laisser la critique à quelque chose de tout à fait différent? Est-ce qu'il y a une science de la réalité et puis une science de l'intelligibilité suprême? Ou est-ce que c'est la science de la réalité qui demande d'étudier ensuite la spécificité? Pour Aristote, la science première qui regardera la réalité, l'être en tant qu'être, va elle aussi étudier et défendre les premiers principes. Donc la critique est impliquée dans la science première. La science première ne peut pas ne pas être critique. Troisième aspect, si la science en question s'occupe de la substance, est-ce une seule science qui s'occupe de toutes les sciences, de toutes les substances, ou y en a-t-il plusieurs? et s'il y en a plusieurs, sont-elles toutes d'un genre commun? Ou bien faut-il regarder les unes comme partie de la sagesse, les autres comme quelque chose de différent? Donc la troisième question revient sur la question de l'extension de la science première. Et les deux premières seraient plus la question de, l'extension ici, de la compréhension. Ici, c'est beaucoup plus l'extension. Est-ce que la science première va regarder toutes les substances, toutes les modalités de substances? Quatrième objectif. Voici encore une question qui rentre dans les choses que nous devons nécessairement discuter, c'est de savoir si l'on ne doit reconnaître que les substances sensibles ou s'il y a d'autres substances que celles-là. Ceci en face de ça. Est-ce que les substances sensibles sont les seules substances? Ou est-ce qu'il y a d'autres substances? Platon a trouvé d'autres substances, y a-t-il des substances séparées? Donc vous voyez, ça c'est encore au point de vue de l'extension de la philosophie première. De la science de l'être en tant qu'être. Est-ce que la science en tant qu'être va pouvoir regarder autre chose que les réalités immédiatement données? Alors, je ne suis pas, il y a toute une série, c'est important. Ceux qui veulent vraiment entrer dans la métaphysique doivent regarder cela. Parce que je crois que c'est important d'étudier toute cette série de questions que donne Aristote pour essayer de voir comment il va progressivement répondre à ces questions. Et on pourrait dire que nous découvrons là, sous le point de vue du statut des difficultés, donc sous le point de vue d'interrogation fondamentale, tout ce que nous retrouverons successivement dans les réponses. Je ne dis pas nécessairement qu'Aristote répondra à toutes ces questions. Mais il répondra à beaucoup de ces questions. Alors, il y a aussi une question très importante, Aristote dit la question la plus difficile et principale, le problème le plus ardu. C'est la question 11e. Le problème le plus ardu de tous, et qui présente la difficulté la plus grave. L'un et l'être sont-ils, comme le prétendent les pythagoriciens et Platon, non pas quelque chose, mais la substance même des choses? Alors oui, c'est le problème de l'un et de l'être à l'égard de la substance. Et Aristote considère que c'est ce problème de l'être et de l'un par rapport à la substance, qui est le problème le plus ardu. Quand on verra le livre Zeta, il faudra se rappeler cette interrogation qu'Aristote considère comme l'interrogation la plus. Peut-on identifier la réalité avec... Peut-on identifier la réalité substantielle avec l'être et avec l'un, comme le font les pythagoriciens et Platon? Ou bien, n'en est-il pas ainsi? Mais existe-t-il quelque autre chose qui leur sert de substrat, ce qui était par exemple pour un philosophe, l'amitié, ou pour tel autre philosophe, le feu? Y a-t-il un substrat fondamental, un sujet fondamental à l'un et à l'être? Ou est-ce que l'être et l'un sont la substance des choses? Donc c'est un problème extrêmement important, parce que c'est un problème central des rapports entre l'être et l'un, l'être et la substance, l'un et la substance. Alors, Aristote, après avoir énuméré les difficultés, à partir du chapitre 2, développe chacune de ces difficultés. C'est-à-dire montre toujours les deux aspects. Ce qui est pour, ce qui est contre. Donc c'est un excellent exercice dialectique. Ceux qui veulent s'assouplir l'intelligence n'ont qu'à lire le livre Zeta. C'est excellent. Pour moi, faites au moins pour un. Je ne dis pas pour tous parce que c'est fatigant, mais faites au moins pour. Pour la première objection, en voyant les méandres dans lesquels, de fait, il nous conduit. Nous sommes là dans une perspective dialectique, donc une perspective de l'intelligence qui essaie de saisir les motifs pour et les motifs contre. Je n'insiste pas plus. Le livre Gamma. Alors, voyez que le livre Beta représente quelque chose de très particulier. Ce n'est ni le livre grand A, alors essayez de mettre autant que possible, avec un point d'interrogation, à l'égard de chacun de ces livres, une couleur particulière. Le livre grand A est une introduction historique. Le livre petit alpha est une introduction critique. Avec tous les problèmes que ça pose, savoir si c'est une introduction générale ou une introduction particulière. Le livre bêta, c'est de fait un problème dialectique. On pose les difficultés. Donc, c'est pré-philosophique. Pour Aristote, la dialectique est pré-philosophique. Dans la dialectique, on regarde les possibles. On regarde tous les liens de possibilités qui existent et qui peuvent exister. À partir des opinions des autres. On discute l'opinion des autres et on essaie de comprendre ce que les opinions des autres peuvent impliquer de juste ou de faux. Le livre Gamma est un livre extrêmement important. Le livre Gamma, on peut dire qu'il est un livre critique aussi. Réflexion critique. Où Aristote se pose la question du statut particulier de la science de l'être en tant qu'être. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et les attributs qui lui appartiennent essentiellement. Alors il faut bien saisir ce que représente cet aspect si important qui a été repris par saint Thomas et qui a été repris ensuite, on dit tout le temps, la métaphysique, c'est la science de l'être en tant qu'être. Alors évidemment, on met dans l'être en tant qu'être et donc c'est une chose visible et diverse. Voici comment tout ça. C'est pas parce que on arrive petit à petit, lentement, à comprendre ce que c'est que l'être en tant qu'être. C'est pour ça que je crois que c'est une perspective critique, de réflexion critique. La métaphysique ayant eu un certain cheminement, on essaie de réfléchir sur ce que représente exactement le contenu de la pensée métaphysique, le contenu de cette science métaphysique. Alors, remarquez tout de suite que Platon, quand il parle de l'être, parle toujours du on onto. Et Aristote ne reprend pas la formule de Platon. Je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement important à saisir. Parce que ça nous met tout de suite en perspective, ça montre tout de suite la différence de ce que représente l'intelligence dans son ultime étape de recherche de l'être, chez Aristote, et chez Platon. Platon parle de l'être, le on-onta. Le on-onta, c'est l'être réellement. C'est une réduplication. Onta, qui vient de on, c'est la manière dont on dirait, si vous voulez, l'être qui existe réellement. Et Platon oppose l'être qui existe réellement à tous les êtres sensibles. Quand vous regardez dans Phèdre, où Platon montre pour la première fois cette grande découverte de l'être qui existe réellement, il oppose l'être qui existe réellement à l'être sensible, à l'être qui apparaît. C'est pas, donc c'est l'être qui existe réellement. Et cet être qui existe réellement, c'est l'âme qui l'a saisi avant d'être unie au corps. C'est pas, et l'âme l'a saisi avant d'être unie au corps, et c'est par l'être qui existe réellement que de fait il saisit le point de vue des formes idéales. Les formes idéales sont en continuité avec l'être qui existe réellement. Tandis qu'au contraire, Aristote prend l'expression soon eon. L'expression, il faut bien comprendre, soon eon. Le eon est une réduplication, on dira en tant que, une réduplication sur le soon. Ce n'est plus dire l'être réellement, mais c'est l'être, toon, c'est très difficile. Aujourd'hui, on traduirait facilement en disant l'étant. Je crois qu'il faut faire attention parce que l'étant, chez Heidegger, prend une nuance particulière qui n'est pas celle du toon chez Aristote. Je crois qu'on peut dire ce qui est. Je crois que c'est ce qui est mieux. Le toon représente ce qui est. Alors, le toon est pris dans sa réduplication sur on. Donc, le toon, ce qui est considéré en tant que ce qui est, ou ce qui est considéré en tant que dans la perspective d'être. Vous voyez, parce que si on mettait les temps considérés en tant qu'étant, ce serait justement quelque chose de très particulier. Alors ça mettrait tout de suite la métaphysique dans une perspective qui ne serait plus la métaphysique de l'être. Je crois pour un seul, encore une fois, c'est il faudrait critiquer toute la position de Heidegger par rapport à la position aristotélicienne pour montrer que c'est bien le point de vue de l'être. Alors disons, si vous voulez, pour le moment c'est une traduction. Toute traduction interprète. Il faut bien dire ça. Donc je peux répéter évidemment dans Toam et On, et puis voir que c'est, j'interprète en disant ce qui est en tant qu'être, dans la perspective d'Aristote. Donc voilà ce que représente, si vous voulez, cette science première. Il y a une science qui étudie, Aristote dit, qui contemple, théorèse, elle regarde, elle considère. Donc, c'est le terme de la connaissance de qui en tant qu'être. Elle considère donc la réalité, ce qui est, ce qui nous est donné, sous un point de vue particulier. Et pour bien comprendre justement ce que Aristote veut nous dire ici, il nous montre d'abord que cette science de ce qui est en tant qu'être est la science la plus universelle. Il revient tout de suite à dire que c'est la science la plus universelle, parce que toutes les autres sciences n'étudient qu'une partie de l'être, une partie de ce qui est. Il étudie sous le point de vue quantitatif, il étudie sous le point de vue du mouvement, il étudie sous le point de vue de telle qualité. Tandis qu'au contraire, ce qu'il y a de propre à cette science première, c'est d'étudier ce qui est sous le point de vue de l'être. Et non pas du point de vue du mouvement, non pas du point de vue de la vie, mais sous le point de vue de l'être. De sorte que le caractère premier de cette science, c'est d'être la plus universelle. Toujours le procédé de l'extension qui, pour nous, est la chose la plus facile à comprendre. C'est beaucoup plus difficile de comprendre l'aspect de compréhension de la science première. C'est pour ça qu'Aristote aborde le problème toujours du côté de l'extension. Quand il veut faire une distinction entre deux aspects, il prend toujours le problème de l'extension. Ici, il veut distinguer cette science première des autres sciences. Il dit cette science est la plus universelle. Parce que justement, elle ne regarde pas une partie de l'être. Elle regarde ce qui est en tant qu'être. C'est immédiatement la difficulté. C'est que cette science qui considère ce qui est en tant qu'être, est-ce que de fait, elle ne va pas perdre son caractère proprement scientifique? Aristote a dit dans les analytiques que la science possède une unité. Or, l'être, le toi, se dit de multiples manières. Si l'être se dit de multiples manières, pour la cause, il se dit de multiples manières. S'il se dit de multiples manières, est-ce que cette science de l'être en tant qu'être ne va pas être immédiatement une science anarchique? Elle va partir dans tous les sens, puisque l'être se dit de multiples manières. Alors c'est pour ça qu'immédiatement, après avoir montré l'universalité de cette science, qui n'est pas une partie de l'être, il nous montre comment, dans ce caractère extrêmement universel qui implique une très grande diversité, il y a cependant une unité. Et je crois qu'il faut voir ces trois moments de la démarche d'Aristote, toujours au point de vue, pour essayer de dire cette science de l'être en tant qu'être. Donc, il dit d'abord l'universalité absolue. Deuxièmement, il dit la diversité. L'être se dit de multiples manières. Se dit de multiples manières puisque, de fait, le terme être peut se dire de l'homme, le terme être peut se dire de la qualité, l'être peut se dire de tout ce qui est. Donc, il se dit des diversités très grandes. Et troisièmement, il ramène cette diversité à l'unité, à une certaine unité, à un propre être, c'est-à-dire vers un. C'est une unité qui n'est pas une unité parfaite, c'est une unité qui se fera dans la diversité. Et donc c'est une unité qui se fait propre elle. Alors Aristote, pour bien nous faire comprendre ce point de vue-là, donne des exemples, qui sont les exemples bien classiques qu'on a repris ensuite, les exemples de la santé, les exemples du médical, et l'exemple, toujours pour expliquer ce que c'est que l'être. Il nous dit que de fait, nous regardons le terme sain, et regarde la santé, ça peut s'appliquer à différentes choses. Mais cependant, cette diversité de qualification a une certaine unité parce que tout est ordonné à la santé de l'animal. Si vous dites qu'un médicament est sain, il est en vue de la santé. Si vous dites que telle personne a un sein sain, ça veut dire que justement sa couleur manifeste la santé. Et donc, tout est ordonné vers le point de vue de cette qualité, la santé de l'animal. Donc, le qualificatif sain peut s'attribuer de diverses manières, mais il est ordonné vers un attribut particulier, vers une nature particulière, la santé de l'animal. De même, quand il s'agit de l'être. Vous voyez là, la perspective de comparaison que donne Aristote, il faut du reste faire attention parce que c'est une comparaison. C'est pas un raisonnement rigoureux, c'est un raisonnement par mode d'exemple. Et dans la rhétorique, Aristote nous dit ce que c'est qu'un raisonnement par mode d'exemple. Un raisonnement par mode d'exemple, c'est à cause de notre infirmité. parce que nous ne comprenons pas tout de suite, alors il faut donner un exemple. Mais un exemple n'est jamais rigoureux. Et ne peut jamais être rigoureux. Alors il ne faut jamais identifier le terme phanum et le terme être. Ce serait quelque chose qui serait tout à fait erroné. Donc l'exemple ne colle pas. Il nous conduit. C'est une malédiction. Pas plus que cela. C'est une malédiction. Parce que le terme être a quelque chose d'unique. Il nous l'a dit, puisque la science de l'être en tant qu'être est quelque chose d'unique. Donc le terme être a quelque chose d'unique que nous ne pourrons jamais retrouver adéquatement dans n'importe quel autre terme. Mais on prend ces termes pour essayer d'expliquer et de nous conduire. Vous voyez, ça c'est très très important, parce que dès que vous faites un parallélisme entre ces termes, un parallélisme univoque, vous détruisez toute la pensée d'Aristote. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que le terme être va s'attribuer successivement à toute une série de choses. L'être se prend de multiples acceptations. Mais dans chaque acceptation, toute dénomination se fait par rapport à un principe unique, le propre être. Il se fait vers quelque chose qui est un, vers un principe unique. Il dira principe, arché, et il dira même tout. Mais donc, ce qui fait que ce n'est pas si comme que ça a bien précisé. Alors, il nous dit ceci. Telles choses sont dites des êtres, parce qu'elles sont des substances. Telles autres, parce qu'elles sont des déterminations de la substance. Telles autres, parce qu'elles sont un acheminement vers la substance. Et au contraire, des corruptions de la substance. Ou parce qu'elles sont des privations. Ou parce qu'elles sont des qualités de la substance. Ou bien parce qu'elles sont des co-déficiences ou génératrices. Donc, autrement dit, le terme être regarde toute une série de déterminations. L'être se dit une quantité de déterminations particulières. Mais toutes ces déterminations, si je fais attention, vous voyez, le problème est résolu quand on arrive à tout ça. Ce n'est pas du tout la découverte de la substance qui nous donne. Comme ça, je dis, c'est une perspective critique. On a déjà découvert la substance. Alors, il nous montre que, de fait, toutes ces déterminations se donnent vis-à-vis d'un terme unique qui est « ou bien ». La substance. Ce on, ce être, je veux dire, c'est unitaire. Donc, la diversité des acceptations, des significations du terme être, des significations du dohom, va se prendre de l'ousia, de la substance. C'est la substance qui va nous permettre de connaître la signification des divers termes de l'être. Et c'est la substance qui va nous faire comprendre comment cette diversité de signification du terme être possède une certaine unité. À l'intérieur de la diversité, il y a une unité. Oui, oui, c'est le problème est difficile, hein. Il est assez subtil, ça demande un peu de finesse, n'est-ce pas? Parce que le fait, c'est de voir qu'il y aura une certaine unité à l'intérieur de cette diversité. Vous voyez que le problème se pose du côté du l'étape. L'être se dit de multiples manières. Donc nous sommes dans une réflexion sur la manière d'attribuer l'être. La substance est être, la qualité est être, la relation est être, le mouvement existe, il est, et ainsi de suite. Alors toutes ces déterminations possèdent une certaine unité à cause de l'être. Grâce à cela, la substance, la science de l'être en tant qu'être, ou de ce qui est en tant qu'être, va donc posséder une certaine unité. Aristote nous fait tout de suite comprendre que cette science si universelle va donc posséder une unité très différente des autres sciences. Puisque justement, la très grande diversité des significations de l'être vont faire que cette science ne pourra pas posséder la même unité que les sciences qui ne regardent qu'une partie de l'être. Elle va posséder une unité qui sera une unité d'ordre. Aristote ne dit pas ici le terme analogie. Satama le dira à la suite des grands commentateurs arabes. Mais ainsi que Colbert le Grand. Aristote ne dit pas ici le terme analogia. C'est intéressant au point de vue proprement de la terminologie d'Aristote. Aristote dit ici propre être. Donc ne disons pas que pour Aristote, entre la substance et les diverses significations de la substance, il y a une attribution analogique. C'est très contraire à la terminologie d'Aristote, vous comprenez? Parce qu'il dit tout simplement que c'est une question de l'ordre. Il y a un ordre. Il y a une diversité de signification et tout se dit en fonction d'un premier qui est la substance. Donc l'unité de cette science et une unité d'ordre. Vous voyez, unité d'ordre en fonction de ce que représente le point de vue de la substance, qui est la signification majeure de l'être. L'être prendra toute sa signification dans le problème de la substance. Ensuite, Aristote aborde le problème, cette science unique, cette science qui regarde ce qui est en tant qu'être, va nécessairement regarder aussi l'un. Pourquoi ? Parce que l'être et l'un sont identiques. Et donc, si on considère ce qui est en tant qu'être, on considérera nécessairement aussi le point de vue de l'un. Et comme l'opposé de l'un, c'est le multiple, et que l'opposition qui existe entre l'un et le multiple est l'opposition majeure qui commande toutes les autres oppositions, cette science de ce qui est, qui considère aussi l'un, va considérer le multiple et tous les opposés. Et ça, c'est une manière de saisir une structure de tout ce que représente l'extension de la science de l'être en tant qu'être. Je ne peux pas davantage vous expliquer, il faut y réfléchir, relisez le texte. Là, vous ne perdez pas votre temps. Ceux qui veulent vraiment pénétrer dans le livre Gamma 1 et 2 ne perdent pas leur temps. C'est un grand lieu sur lequel il faut revenir souvent et qu'il faut méditer souvent parce que ça ne se dévoile pas tout de suite. C'est au fond le fruit, je crois, de toute une recherche d'Aristote qui donne sa position propre. Et c'est de comprendre comment il y a un dernier effort de l'intelligence qui découvre cette science ultime qui regarde tout sur le point de vue de l'être. Ensuite, il nous montre que cette science de l'être, de ce qui est en tant qu'être, ce sera également la science qui va défendre le principe de contradiction, ou plus exactement, la science qui va regarder l'axiome premier qui est le principe de contradiction. Il est impossible que le même attribut appartienne ou n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Enfin, ce principe de contradiction est très important à bien saisir. Aristote le montre ici que c'est cette science de l'être en tant qu'être qui doit considérer le principe de contradiction. Pourquoi ? Parce que ce principe de contradiction emploie être et non-être. Puisqu'il emploie être et non-être, il est donc au niveau de notre connaissance de l'être. Et donc il faut que la science qui atteigne l'être essaie d'expliquer et de défendre le principe de contradiction. Il explique que l'être est le non-être. Il est impossible que le même attribut appartienne ou n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Alors c'est très important de voir que il faut toutes ces conditions particulières pour que le principe de contradiction puisse porter. Parce que quand il s'agit justement de supprimer une de ces conditions, le principe de contradiction ne porte pas. Alors il y a une précision là très forte de montrer que l'intelligence ne peut pas affirmer en même temps ceci est, ceci n'est pas. Et ça se ramène à cela. Ça se ramène à l'affirmation ceci est, ceci n'est pas. Et ceci représente, si vous voulez, comme l'aspect fondamentale de la vie de l'intelligence. L'intelligence, dans son affirmation « ceci est et ceci n'est pas », touche ce qu'il y a de tout à fait fondamental à son affirmation et négation. Donc l'opposition majeure, c'est une opposition contradictoire. En face de ce principe, Aristote rappelle qu'on ne peut pas démontrer. Ça, c'est un grand point de vue qu'Aristote a déjà dit dans les analytiques, qu'un principe ne se démontre pas. Oui, mais c'est par où je suis ? En disant que c'est le signe d'une intelligence qui n'est pas suffisamment lumineuse et suffisamment critique de prétendre tout démontrer. Les principes ne se démontrent pas. Les principes, on les découvre. Celui qui prétend tout démontrer, celui-là, justement, supprimerait par le fait même le principe. Puisque le principe, c'est quelque chose de troisième. Si le principe est le jour de poignée, on ne peut pas le démontrer. Donc un principe est évident. L'intelligence le découvre ou ne le découvre pas. Il est évident. Donc il y a une évidence dans le principe. C'est l'intelligence dans son jugement qui saisit le principe et qui saisit le lien entre l'attribut et le sujet. Donc là nous sommes en face de l'évidence de l'intelligence qui saisit ce que représente la réalité en tant qu'elle est, qui s'oppose à ce qu'il pense. Alors, donc, on ne peut pas le démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement montrer que si vous niez ce principe, vous êtes acculé à de fait vous taire. Parce que vous êtes vous-même en contradiction avec vous-même. C'est pas autrement. Aristote dira qu'à l'égard du principe de non-contradiction, de façon générale à l'égard de ce principe, on peut employer deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode qui consiste à montrer toutes les impossibilités auxquelles on est acculé si on refuse ce principe. Si vous refusez ce principe, vous êtes acculé à ce réseau de ceci. Or, tout ceci est contraire à votre expérience. Donc, voyez, donc, le refus du principe de nos contradictions nous accule à une série de contradictions, ou à une série d'impossibilités, plus exactement. Vous êtes acculé à une série d'impossibilités. Et quand vous n'acceptez pas ce point de vue-là, vous arrivez alors au dernier principe de défense, c'est le principe à dominer. C'est tout simplement, est-ce que vous dites quelque chose? Si vous dites quelque chose, ça prouve que votre langage signifie quelque chose. Or, si vous acceptez que le langage signifie quelque chose, ça prouve que vous acceptez le principe de contradiction. Autrement dit, Aristote montre en dernier lieu que le principe de contradiction se ramène à la signification du langage. Et ceci, vous savez bien, ce que Robanck a souligné très fortement, peut-être pour lui, le point de vue principal de la philosophie d'Aristote contre les sophistes. Contre les sophistes, Aristote montre que le langage a une signification. Et parce que le langage a une signification, immédiatement vous devez accepter que ce qui est ne peut pas ne pas être. Que ça, c'est la signification première dans l'ordre de l'être et dans l'ordre du mal-être. Donc, c'est les deux affirmations. Et donc, en face de celui qui renie et qui rejette le principe de contradiction, on est toujours acculé à montrer les impossibilités ou tout simplement montrer le principe de lui-même, si vous dites quelque chose, si vous parlez, est-ce que votre langage a une signification? Est-ce que vous voulez dire quelque chose en parlant? Si vous ne voulez rien dire en parlant, on ne peut pas discuter. Mais si vous voulez dire quelque chose en parlant, alors qu'est-ce que vous voulez dire? On demande la signification. Et dès qu'on accepte la signification, le principe de contradiction. Donc c'est montrer que le principe de contradiction est au niveau de la signification même de la vie d'un. Je crois que c'est ça le point de vue le plus important. Donc ce livre Galma, je crois qu'on peut le considérer comme un livre de critique, réflexion critique sur toute l'extension de ce que représente la philosophie première, de ce que représente la science de l'être en tant qu'être. Vous voyez, on ne peut affirmer que la métaphysique est science de l'être en tant qu'être qu'après avoir suivi toute une recherche philosophique sur ce qui est. Et au terme, on peut alors donner toute l'extension de cette philosophie. On dit donc que ces livres, uniquement jusqu'à maintenant, comme ces livres ont un caractère différent, ont une couleur différente, chacun a sa tonalité différente. Le livre Delta est encore quelque chose de tout à fait différent. On pourrait séparer le livre Delta d'une certaine manière de la métaphysique. Le livre Delta, c'est le dictionnaire philosophique. C'est de la langue très intelligent. La langue très différente, évidemment, de la langue. Mais au fond, c'est pas la langue. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est le dictionnaire philosophique. Vous avez toute une série de notions sur lesquelles, de fait, Aristote nous montre que ces notions peuvent se dire de diverses manières. Pour éviter tous les exemples. Alors, les notions qu'Aristote regarde, c'est d'abord le principe. Arché, on comprend bien. Toute la philosophie grecque a commencé à philosopher en recherchant le principe. Arché, même Hésiode. Hésiode recherche quel est le principe pour un bien. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Bon, la première chose qu'on doit avoir au point de vue philosophique, c'est savoir qu'est-ce que c'est que le principe. Si le philosophe ne sait pas ce que c'est que le principe, puisque toute la recherche philosophique, c'est la recherche des premiers principes et des principes propres, il faut savoir ce que c'est que le principe. Alors, le principe, c'est le point de départ du mouvement de la chose. Très simple. On ne peut pas remonter au-delà d'un principe. c'est quelque chose de premier, ça, c'est le mot même l'indique, quelque chose de premier. Ça ne veut pas dire que le principe est toujours un a priori, ça c'est autre chose. Ça veut dire que c'est quelque chose de premier. Alors le premier dans l'ordre de l'intelligibilité, le premier dans l'ordre réel, le premier dans l'ordre du mouvement. Vous avez des premiers différents, parce que de fait, il y a des ordres différents. Dans l'ordre, dans l'ordre du mouvement, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui est, et dans l'ordre de l'intelligibilité. Vous avez donc des premiers différents dans ces différents ordres. Il faut donc toujours respecter ces différents premiers. Ensuite, vous avez ce que vous demandez, qu'est-ce que c'est que la cause? Oui, c'est intéressant ce dictionnaire, parce que ça nous montre de fait comment Aristote est venu tout le temps sur ces notions tout à fait premières. Qu'est-ce que ça représente, ces données dont le philosophe se sert, doit comprendre ce que ça veut dire, la cause. Nous savons très bien qu'Aristote a beaucoup précisé et recherché tout le temps la signification des quatre causes. Alors ici, Aristote montre comment toute cause est principe et comment tout principe n'est pas cause. Donc là encore, distinction entre la cause et le principe. Du côté de l'extension. Enfin, du côté de l'extension. On peut dire que toute cause est principe. La cause est toujours un premier. Comment elle ne serait pas cause? Mais tout premier n'est pas cause. Vous savez qu'il peut y avoir un premier qui, de fait, ne soit pas cause au sens fort, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans la réalité. Les causes sont toujours dans la réalité. Les quatre causes. C'est l'analyse de ce qui est. C'est vraiment l'analyse de ce qui est, au niveau du mouvement, au niveau du vivant, au niveau de l'être. C'est l'analyse de ce qui est. Donc, il y a la vie. Alors là, vous voyez, dans le livre Delta, chapitre 2, il faut étudier ça très attentivement pour voir les quatre causes. Nous l'avons fait l'année dernière, je ne reviens pas dessus. Mais c'est très important. Et ceux qui veulent pénétrer un peu dans la pensée d'Aristote, regardez tous les lieux parallèles. Et voir que de fait, les causes sont présentées de manière assez différente. C'est des nuances différentes. Mais il revient toujours sur les quatre. Et selon le livre Grand Temps, Aristote est le premier à distinguer pleinement la cause formelle et la cause physique. Ça, c'est une question historique intéressante, savoir si Platon n'a pas déjà utilisé ce que c'est la cause finale. Et pour Aristote, Platon ne l'a pas discerné à ça. Et par le fait même, il reconnaît qu'il est le premier à faire le discernement entre la cause formelle et la cause finale. Et il reconnaît que la grandeur des platoniciens, c'est d'avoir discerné la cause formelle à la suite des Pythagoriens. Ça, il envoie un coup de chapeau à Platon là. Parce que Platon a de fait eu le premier, le sens de ce que c'est que la cause formelle. Après, les causes, c'est les éléments. Tout élément est une cause, vous voyez bien dans quel sens, n'est-ce pas, et toutes les causes ne sont pas éléments. La cause finale et la cause efficiente ne sont pas des éléments. Alors là, il y a encore une précision entre éléments, ce qu'on représente l'élément comparativement à la cause. Soi kaios, n'est-ce pas, l'élément. L'élément qui, d'une certaine manière, est l'aspect indivisible. Quand on analyse une chose, la chose qu'on ne peut plus analyser, qui est au-delà du visible, c'est l'élément. Donc l'élément, c'est la plus petite partie, si vous voulez, quantitativement. C'est la partie la plus petite, la plus ultime, dernière, qu'on ne peut plus analyser. Elle est au-delà du visible. Alors ça, c'est l'élément. Alors vous voyez que l'élément est toujours un principe. C'est toujours ce qui constitue. L'élément est toujours un principe. Par le fait même, l'élément est toujours une cause. Mais c'est une cause de structure des choses. On pourrait dire que l'élément structure la réalité. Vous voyez ? C'est vraiment une, ça structure la réalité. Qu'il s'agisse de l'élément pris du côté matériel, puisque l'élément est toujours pris du côté matériel. Ça structure la réalité. On n'aimera pas beaucoup de dire que la cause formelle est l'élément. Vous voyez ? On dira que la cause matérielle est l'élément. Et donc c'est du côté de la cause matérielle. Alors, c'est du côté de la cause matérielle qu'on prendra le point de vue de l'élément. Ensuite, vous avez la nature, l'étude de la nature. Vous voyez ? Alors, vous voyez bien ces trois premiers qui sont jamais principe, cause, élément. Alors là, je vous invite, hein, parce que c'est un excellent exercice, c'est très bon d'étudier ça. D'étudier, au point de départ, ce sont des notions sur lesquelles il faut essayer de réfléchir, comprendre ce que c'est le principe, ce que c'est que la cause, ce que c'est que l'élément. Ah, vous pouvez regarder ça dans le commentaire qu'a fait Saint Thomas de Métaphysique. Saint Thomas a fait un commentaire de la métaphysique est excellent. Et quand Saint Thomas commente ces différents aspects, de fait, c'est bien ce que Saint Thomas prendra ensuite comme principe, comme élément, comme cause. C'est parce que là, je ne crois pas qu'il y ait une divergence entre la pensée d'Aristote et celle de Saint Thomas sur ces notions-là. Le point de vue nature, ensuite, qui joue un très grand rôle dans la philosophie d'Aristote. Le point de vue de la nature est pris ici en quatrième lieu. La nature est un principe. La nature est une cause. La nature peut être un élément. Vous voyez ? On peut dire que l'élément est nature. Mais la nature n'est pas la même chose que l'élément. Alors vous voyez la graduation. Hein ? On est parti du principe. Puis la cause, l'élément, nature. Alors la nature est un élément. La nature est une cause. La nature est un principe. Mais nous ne pouvons pas dire que toute cause est une nature, que tout principe est une nature. Donc il y a quelque chose de particulier dans la nature. La nature est principe immanent du mouvement. Alors vous voyez, après c'est le nécessaire. Après c'est le nécessaire. La modalité du nécessaire. Qu'est-ce que c'est que le nécessaire? Regardez le livre Delta. Vous ne perdez pas votre temps à analyser le livre Delta. C'est peut-être un excellent exercice du point de départ. C'est assez austère, hein. Alors je ne vous dis pas nécessairement de faire ça toute la journée. Mais faites un nom chaque jour. Le jour de la nature, le jour de la nécessaire, le jour de l'un, le jour de l'être, et ainsi de suite. Je crois que c'est excellent. Ceux qui veulent entrer dans ce que représente une analyse philosophique, un exercice de ce que représentent ces différentes notions, c'est excellent. Ça exige l'intelligence, ça exige l'intelligence d'être un compagnon. Alors la fois prochaine, nous reprendrons le livre État que nous avions commencé et nous commencerons une analyse un peu plus sérieuse. Sagesse pratique pour la cité, c'est point de vue de la politique, c'est point de vue du gouvernement des autres, la communication aux autres de sa propre contemplation, qui se fera grâce à la connaissance de la cité. Donc là, nous voyons comment l'âme peut atteindre l'éternité. Et il conclut de cette manière, donc, nécessairement, donc la nécessité de vie pour atteindre cette prophétie, la nécessité de l'initiation parfaite et d'une révélation parfaite pour atteindre cette connaissance. Et donc, le dernier moment que nous verrons vendredi, parce que je peux vous faire encore un cours vendredi, je le ferai prêt, remarquez, n'est pas, parce que je présume que parmi vous, il y a des examens à ce moment-là, mais nous verrons quand même vendredi le dernier moment qui commande toute cette grande vision dialectique, qui alors sera l'initiation à l'égard de la vie. Et alors, vous voyez, ça nous fait comme ça, de plein pied par rapport à la réalité. Nous avons vu progressivement comment la dialectique naissait à partir de nous.
Quatrième cours.
On a voulu les grandir. Alors, on dit bien, c'est différent d'aspect de la notation d'Aristote. Le point de vue de la notation, ne voulait pas la différence. France a un alpha, delta, delta, delta. Alors, si vous regardez le commentaire de Sakama, vous avez troisième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième, cinquième et sixième. Vous voyez, c'est un décalage. Donc, nous allons diviser les choses. Le sixième, et nous essayons de mettre les différents aspects sur chacun. Nous avons pour que grand A et petit A, livre d'introduction, le livre Zeta, un livre dialectique, des idées de position, Dhamma et Delta, nous avons dit livre critique, réflexion critique, et livre Epsilon, nous allons voir que c'est encore un livre critique. Autrement dit, nous entrons proprement dans l'analyse métaphysique qu'avec le livre Zeta. Donc encore un livre, je n'ai pas de titre de recherche, je possède. Au fond, il faut essayer de comprendre la diversité des caractères de ces différents livres. De fait, dans cette réflexion critique, il y a deux aspects. Aristote va montrer la division des sciences politiques.
les grandes sciences théorétiques, la physique, les mathématiques et la théologie. Alors vous voyez, tout le problème qui se pose ici, c'est de savoir les liens qui existent entre cette science qu'il appelle ici théologie et ce qu'il a appelé précédemment la science la plus universelle de l'être en tant qu'être, ou la philosophie première, qui est sagesse. Et la seconde partie du livre, sur laquelle nous irons un peu plus vite, c'est le problème de l'accident, de l'être pris de façon accidentelle, pour montrer qu'il n'y a pas de science au niveau de l'être accidentel. Cette seconde partie est très nettement contre les sophistes. Là, je vous renvoie à toute l'étude de banque, c'est très intéressant sur cette idée. C'est que de fait, l'être pris de façon accidentelle ne peut pas donner lieu à la science. Alors vous comprenez comment il va dévier. Il va nous montrer ici que de fait, la science théorique première, celle qui est la plus universelle, l'être en tant qu'être, n'exclut rien. Et pourtant, l'accident n'est pas tout. C'est un très gros problème. Nous y reviendrons peut-être. Parce que là, il y a tous les problèmes très importants qu'Aristote a soulignés au point de départ. C'est que pour Aristote, tout n'est pas objet de science. Autrement dit, la réalité est toujours plus que la science. En définitive. Et je crois que c'est ici que Aristote le montre de la manière la plus critique, de la manière la plus pertinente. Le danger toujours, dans une certaine perspective positiviste ou dans une certaine perspective idéaliste, c'est d'identifier la connaissance et la réalité. De croire que notre connaissance, dans la mesure où elle sera parfaite, sera un décalque parfait de la réalité. Il y aura donc une espèce d'adéquation. Ici, Aristote essaie de montrer, c'est dans une perspective critique, il essaie de montrer que la science